Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Vers de terre, l'émission pour les auditrices et auditeurs vers de rage. L'émission des étudiantes du Master Politique Environnementale et Pratique Sociale. Aujourd'hui, vous allez assister à une discussion qu'on a eue un soir. Se retrouver pour boire un verre après la journée de cours avec Perrine, Luana, Marianne et moi-même Antona.
D'ailleurs, ça vous a pas choqué le cas de Shell qu'on a vu en cours ?
Oh, j'ai rien suivi, j'étais complètement ailleurs aujourd'hui.
Mais si, Perrine, tu sais, c'est le cas du premier migrant environnemental de France.
Mais oui, il vient du Bangladesh. Il a une maladie respiratoire qu'il a contractée à cause de la pollution atmosphérique de la ville de Dhaka.
Non mais tu m'étonnes, vu la pollution qu'il y a à Dhaka, entre les usines, les voitures, etc., c'est pas étonnant qu'il ait développé une forme d'asthme sévère.
Du coup, Perrine, Shell, c'est un Bangladais qui est arrivé en France en 2019 et maintenant il vit à Toulouse. Et en fait, son cas, il est assez complexe parce qu'il a d'abord obtenu un premier titre de séjour, mais au moment de son renouvellement en 2019, on a voulu lui refuser. Après, ça allait assez loin parce que l'affaire, elle a été portée devant la cour d'appel de Bordeaux. Et là, il y a l'aspect de la pollution de son pays d'origine qui a enfin été pris en compte. Du coup, ils ont jugé que ça serait trop risqué de le renvoyer dans son pays parce que c'était à cause de cette pollution qu'il était malade.
Mais attends, du coup, c'est quoi son statut ? Il est réfugié climatique ?
Justement, tu vois, ça n'existe pas climatique. Il serait réfugié ou étranger malade. En gros, l'aspect de la pollution et son environnement de vie au Bangladesh, ils ont été pris en compte pour juger de son statut. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de statut approprié pour le définir. Du coup, ça a été assez complexe. Ils ont un peu fini par faire un bric-à-brac pour son cas.
Attends, je vais aller voir ce que c'est le statut d'un migrant environnemental sur Internet. Ok, alors apparemment, un migrant environnemental, ça n'aurait pas vraiment de statut juridique qui serait précis ou qui serait défini par un code ou une juridiction en France. Mais l'expression réfugié climatique, ça existe. Mais pourtant, dans la définition de réfugié dans la Convention des Nations Unies de 1951, les raisons pour être réfugié, c'est la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe politique. Mais climat ou environnement, y a pas.
Mais du coup, ça les invisibilise vachement s'il y a un vide juridique et si on sait pas les définir.
Et pourtant, on entend tout le temps parler des migrants dans l'actualité.
Ouais, mais t'as déjà entendu parler de migrants environnementaux, toi ? Enfin, je sais pas, moi, en dehors de nos cours, je crois pas que ce soit le premier titre que tu vois en ouvrant un journal, hein.
Puis, on n'en entend pas franchement parler dans la politique non plus.
Enfin, on en entend quand même parler, des migrants, mais surtout autour des sujets de la sécurité et des attentats. Et c'est surtout un sujet politique de la droite et de l'extrême droite.
Ouais, comme avec la soi-disant théorie du grand remplacement.
C'est ça. Il me semble qu'elle a émergé dans les années 70-80, non ?
C'est quoi déjà cette soi-disant théorie du grand remplacement ?
C'est une théorie fumeuse qui dit que la population natale va être remplacée par la population immigrée. C'est une théorie absolument pas prouvée et en plus perso je suis pas du tout d'accord avec ça. Et la population immigrée en France, elle représente quoi, genre 6% de la population française ? Enfin ça reste vraiment une minorité hein. Et on voit que c'est pas le même vocabulaire en plus qui est utilisé entre la droite et la gauche. La droite, elle va plus utiliser le mot clandestin et la gauche le mot réfugié.
Ah ouais, donc si j'ai bien compris, on ne parle pas des migrants environnementaux. Mais juste des migrants de manière péjorative. En fait, quand on parle des migrants environnementaux, ça veut dire qu'il y a un vide juridique et que ce phénomène, il est récent.
Non, le débat autour de l'immigration, il est quand même loin d'être récent. On en entend souvent parler pendant les périodes de crise avec le chômage, par exemple.
Mais je pense que les migrants, ils servent très clairement de bouc émissaire. Mais en parlant de ça, ça vous rappelle pas, vous savez, le cours qu'on a vu sur René Girard avec son livre, comment il s'appelait déjà ?
C'est La violence et le sacré, non ?
Ah oui, voilà, c'est ça. Où dedans, il théorise la figure du bouc émissaire. En soi, je pense qu'on peut faire un parallèle de cette figure du bouc émissaire avec les migrants.
C'est-à-dire un parallèle ?
En fait, tu vois, je pense que les migrants, ils servent de bouc émissaire dès qu'une société elle est en crise. Et tu te rappelles, dans son livre, il parle de crise sacrificielle. En gros, il explique que pour sortir de cette crise, il faut trouver un responsable. Et ce responsable, c'est donc un bouc émissaire. Et on va pas se mentir, hein, c'est très souvent les migrants.
Ouais, je vois. Mais ça me fait autant... T'as qu'à penser aux immigrations des Italiens et des Polonais en France. C'était au 19e siècle, il me semble. En fait, le racisme augmentait avec les périodes de montée de l'extrême droite et du nationalisme. Et du coup, ils étaient un peu perçus comme des voleurs de travail. Et il y a eu le massacre à Aigues-Mortes avec les Italiens, qui a fait une quinzaine de morts et une centaine de blessés, il me semble.
Ah ouais, quand même.
Ouais, donc ça serait nécessaire de prendre en compte les migrants environnementaux et de leur donner un cadre juridique pour les protéger. Parce qu'avec le réchauffement climatique, des personnes sont contraintes de changer de pays. Donc ça affecte profondément les conditions de vie des gens. On peut alors parler de justice migratoire.
Ah oui, la justice migratoire, elle est liée au contexte de la crise environnementale. Alors, je suis allée vérifier. D'ailleurs, les accords de Paris sur le climat, ils définissent le changement climatique mondial comme une question d'ordre politique et éthique et pas strictement environnemental. Donc en gros, il part du fait que ce sont les plus vulnérables et les plus pauvres qui vont subir le plus les effets du changement climatique. Alors qu'en même temps, ce sont ces mêmes personnes qui émettent le moins d'émissions de gaz à effet de serre.
Et je dis aussi sur le site du Centre national de coopération au développement que ce terme a été créé pour cadrer les débats sur les migrations internationales et pour harmoniser les droits des individus indépendamment de leur statut social et politique.
Ah mais d'accord, mais c'est assez novateur du coup, non ? Parce que sachant qu'on ne parle pas forcément du changement climatique, alors si on vient le combiner avec les migrants, n'en parlons pas, on va perdre tout le monde. Puis c'est assez récent comme phénomène, non ?
Bah, je sais pas si c'est si récent que ça, tu vois. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles, par exemple, qui ont poussé les gens à immigrer. Et va y en avoir encore plus. Donc le nombre de migrants environnementaux, bah, il va augmenter. Mais en vrai, je pense qu'il y en a toujours eu. C'est juste, bah, on s'y intéresse pas, quoi.
Mais alors, pourquoi c'est important de changer les mentalités vis-à-vis des migrants ? Et puis en plus, comment on fait ?
Bah, parce que le nombre de migrants climatiques ne fait qu'augmenter avec les années. Il faudrait donc s'adapter au phénomène pour mieux le gérer.
Ah ouais, c'est vrai. L'autre jour, j'ai lu le résumé du 6e rapport du GIEC de 2021. Et les scientifiques, il me semble qu'ils prédisent le déplacement de plusieurs centaines de millions de personnes pour les prochaines décennies. Et ils disent aussi qu'ils seront en partie provoqués par la modification des écosystèmes et la multiplication des catastrophes naturelles.
Bah ouais, puisque ces migrations environnementales, elles sont inévitables, peut-être qu'il vaut mieux commencer à repenser les rapports et la vision souvent négative qu'on a de ces migrations. Il faudrait peut-être aussi créer des conditions d'accueil plus positives, vu qu'il va y avoir une future cohabitation avec cette migration, du coup.
Mais en soi, sur quoi on pourrait s'appuyer pour appliquer ce concept de justice migratoire ?
Alors, j'ai vu en cours qu'il y a 3 éléments. Donc déjà, qu'il faut respecter par rapport au cadre de la justice climatique. Donc déjà, il y a les droits humains, il y a aussi le principe d'égalité et d'équité. Alors, et le troisième, il me semble que c'est la solidarité. En gros, c'est donner la priorité aux plus vulnérables pour leur garantir une migration vivable.
Ok, mais concrètement, on fait comment pour changer les mentalités ou la méfiance envers les migrants ?
Déjà, peut-être qu'on pourrait commencer par agir sur les causes de l'immigration forcée pour les réduire au maximum.
Et une autre solution, ça serait aussi de permettre aux migrants environnementaux de vivre dans des conditions dignes à travers le respect du droit international. Donc en fait, ça serait de garantir la sécurité physique et morale des personnes qui sont renvoyées dans leur pays.
Oui, enfin, c'est bien beau tout ça, mais à partir du moment où on décide de renvoyer une personne dans son pays, c'est hyper difficile d'assurer son intégrité et sa sécurité, sachant qu'on peut pas contrôler les facteurs extérieurs qui pourraient constituer un danger pour cette personne.
Mais je pense que c'est encore plus compliqué que ça, parce que déjà, sachant que la plupart des individus, ils ont fait le choix contraint d'immigrer, pour une grande majorité des migrants, ils souhaitent plus retourner vivre dans leur pays, enfin pour le moment, tant que le problème n'est pas réglé.
Ouais, tu m'étonnes. En plus, il y a beaucoup de migrants qui font l'objet d'un refus de demande d'asile et qui sont expulsés de force hors de l'Europe.
C'est clair. En plus, le nombre de migrants dont la demande d'asile est rejetée est de plus en plus important. Dans mes souvenirs, ils étaient environ 500 000 d'après l'INSEE.
Ah ouais, tu connais tous les chiffres, toi, en fait.
T'as vu ça ?
Et si on remplissait les engagements internationaux en termes de financement par rapport aux pays qui subissent le plus le changement climatique, comme avec l'aide au développement, par exemple ?
C'est quoi, déjà, l'aide au développement ?
Ok, attends, laisse-moi regarder vite fait. J'ai plus le truc exact en tête. Ok, c'est bon, j'ai. Donc, sur le site de l'Agence française de développement, il y a écrit que l'aide au développement, c'est l'ensemble des financements qui sont apportés par les acteurs publics des pays les plus favorisés pour améliorer les conditions de vie dans les pays les moins favorisés.
Mais le truc, c'est que les textes de loi qui régissent l'aide au développement, bah, ils sont pas hyper contraignants. Hein. Et depuis la signature des accords, il me semble, en 1969,
wow.
Il y a très peu de pays bailleurs d'aide qui ont rempli leurs engagements.
On pourrait alors mettre en place des voies légales de migration pour permettre aux personnes souhaitant changer de pays de le faire en toute sécurité.
Oui, mais je pense qu'on va un peu trop vite là. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu mission impossible de mettre en place des voies légales de migration. Parce que, un, ça implique de changer la vision négative que l'on a des migrations, et deux, ça implique de prendre en compte qu'il va y en avoir de plus en plus et dans pas longtemps.
Ouais, en gros, faudrait accepter l'immigration plutôt que d'essayer de l'en empêcher.
Mais il faudrait aussi définir un cadre de régularisation pour les personnes migrantes pour les protéger, et puis aussi pour leur assurer une forme de stabilité.
Je pense aussi qu'il est très important d'agir sur les stéréotypes, de lutter contre les discriminations et les inégalités que peuvent subir les personnes migrantes.
Non mais encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. C'est un travail de long terme, pardon, et de fond, de déconstruire et de lutter contre les stéréotypes, quelle que soit la nature de ces derniers.
Déjà, pour déconstruire tout ça, faudrait qu'il y ait un débat plus visible, non ?
Faudrait surtout un débat plus visible sur les migrants climatiques. Parce qu'on voit bien que le sujet revient souvent dans le débat politique en France, Alors est-ce qu'on pourrait chercher pourquoi le débat sur les migrants climatiques est très peu évoqué ?
Après, il n'est pas complètement absent, mais on n'en entend pas vraiment parler, c'est vrai. Même si on a l'impression que c'est nouveau, t'as par exemple le GIEC qui en parle depuis 30 ans. Et il annonçait déjà dans les années 90 que l'évolution du réchauffement climatique aurait des conséquences sur le déplacement de millions de personnes.
Oui, c'est vrai. Puis aujourd'hui, on retrouve quelques articles sur le rapport du GIEC après sa sortie dans les journaux. Mais bon, on arrête assez vite d'en parler. Hein.
Mais carrément. Par exemple, les médias ont beaucoup plus parlé de Messi que de la première partie du rapport du GIEC qui est sorti l'été dernier.
C'est vrai.
Et c'est exactement la même chose pour la deuxième partie du rapport qui est sortie en février dernier. Il est passé inaperçu avec le contexte actuel entre la Russie et l'Ukraine. Et le troisième volet du GIEC qui est sorti une semaine avant les élections du premier tour, on en parle ou c'est pas la peine ? Et les médias dans tout ça, ils sont où, ils font quoi ? Je vous le demande.
De toute façon, il y aura toujours une meilleure actualité pour ne pas en parler. Hein. Et aussi, en plus, genre vraiment, les rapports du GIEC, ils sont pas forcément lus et encore plus accessibles par toute la population. Ce sont des rapports scientifiques et en plus, ils sont écrits avec un jargon hyper technique. Et en plus de ça, dans différents domaines, t'as genre l'économie, la climatologie et tout.
Et puis, en plus, on le voit avec le sixième rapport qui vient de sortir, il a à peine résumé dans les médias et sur les réseaux sociaux. Encore que peut-être le troisième volet, c'est un peu mieux. Mais bon, déjà, vu qu'on n'entend pas parler plus que ça de base, si en plus ils sont visibles que très peu de temps, ils passent super vite à la trappe.
Mais du coup, si le rapport est résumé, est-ce que la question du migrant climatique est réellement abordée ?
Eh bien justement, dans le premier volet du rapport du GIEC, les scientifiques, ils parlent pas trop du déplacement de population. Tu sais, là, ils donnent des données là, scientifiques sur le climat. Mais par contre, dans le deuxième volet, ils en parlent un peu. Ils parlent surtout de l'impact et de la vulnérabilité de nos sociétés face au changement climatique. Et ils évoquent le fait que d'ici 2050, pourrait y avoir, je dirais comme ça, environ 143 millions de déplacés climatiques.
Ouais, allez, c'est bon, arrête de faire genre avec tes chiffres.
Et dans ce rapport, les déplacés climatiques, ils sont associés aux problèmes de pauvreté. Parce que ce sont les pays du sud global qui subissent le plus les effets du réchauffement climatique.
Et pourtant, tu vois, que ce soit les scientifiques du GIEC ou encore ceux de la Técopole de Toulouse, ils s'accordent tous pour dire que c'est les pays du nord global qui sont relativement peu touchés. Alors qu'en comparaison, c'est les pays globalement situés dans l'hémisphère sud qui vont le plus trinquer. Et pour ça, ce sont les pays du nord qui émettent le plus.
Ouais, de ouf.
Mais ça me fait penser que l'autre jour, j'ai assisté à une conférence de la Técopole où il y a des scientifiques qui mettaient en avant le fait qu'il y a des inégalités de contribution aux émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle nationale.
Ouais, c'est vrai, on n'en parle pas assez, ça, des inégalités qu'il y a au sein des pays.
Ouais. Par exemple, les 10% les plus riches sont responsables de près de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Sérieux ?
Ouais. Bah ouais, alors même que la moitié de la population mondiale ne représente que 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la majorité d'entre eux vivent dans les pays du sud global. Donc la répartition des risques climatiques est disproportionnée envers les plus pauvres qui habitent dans les lieux les plus exposés aux risques.
Ah mais attends, je te coupe, c'est pas la musique clandestino de Manu Chao qui passe ?
Ah ouais, c'est vrai.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón. De la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida. La autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón. De la grande Babilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel.
argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Ça faisait super longtemps que j'avais pas entendu cette musique. Ce qu'il dit sur les réfugiés, c'est fou, j'ai l'impression que j'en vois pas en France.
Bah, peut-être que les Français préfèrent fermer les yeux sur ces questions. Tu vois, ça les touche moins. Je pense qu'ils préfèrent très clairement se consacrer à des sujets plus présents, plus proches d'eux.
Mais tu vois, l'autre jour, j'ai vu un sondage sur les préoccupations des Français et on entend partout dans les médias que l'immigration, elle fait partie intégrante des préoccupations des Français. Alors que ça fait même pas partie du top 3 des préoccupations, d'après le sondage de l'IFOP qui est sorti en février dernier. Les thèmes qui ressortent dans ce top 3, c'est le pouvoir d'achat, le système de santé et l'écologie ou les risques liés au changement climatique.
Ouais, donc en gros, on voit que l'environnement fait quand même partie des préoccupations principales. Après, l'immigration, même si ça en fait moins partie, on en entend quand même parler. Mais bon, à part dans le monde scientifique, on fait pas du tout le lien entre les deux. Donc on parle pas du tout des migrants climatiques, quoi.
Ouais, en fait, c'est un non-problème public. Un problème qui est pas traité par les politiques, quoi.
Non, mais en parlant de ça, ça me fait penser à ce qu'on a vu sur Emmanuel Henry. Vous savez justement où il parle du non-problème public?
Exact. Je vois exactement de quoi tu parles. C'est quand Henry, il dit que le processus de mise en invisibilité des problèmes, il s'explique à travers les relations de pouvoir et de domination entre les différents acteurs en présence.
Oh, tu connais bien ton cours. Je me souviens plus, c'est quoi déjà la mise en invisibilité?
C'est hyper simple, c'est juste que parfois, il y a des problèmes qui sont pas mis en avant. Du coup, on a l'impression qu'ils n'existent pas, on les voit pas, quoi. Et donc, bah, il n'y a pas de débat derrière. Et je sais pas, t'as par exemple le problème avec le chlordécone, qui est très clairement passé sous silence. Les territoires touchés par ce pesticide, comme t'as la Martinique, bah, ils en ont pour des décennies, même des siècles, pour régler le problème. Et pourtant, tout le monde s'en fout, alors que la situation, elle est super grave et alarmante.
Ah d'accord, c'est bon, je vois.
Et du coup, Henri, il explique aussi que l'inaction publique, donc en gros c'est qu'il n'y a pas de mesures politiques qui sont prises, eh ben, ça va renforcer l'invisibilisation des problèmes.
Ouais, c'est exactement ce qui se passe pour la question des migrants climatiques. C'est un problème dont personne ne se saisit.
Bah en fait, vu qu'on n'est pas directement concerné par le problème du changement climatique, on a du mal à rendre concret, hein. Même s'il y a plein de preuves qui montrent l'intensification et l'augmentation des catastrophes naturelles, et donc des migrations environnementales.
Ah ouais, donc c'est en partie ce qui rend le problème des migrations environnementales invisible.
Ouais, c'est ça. Et par exemple, on peut le comprendre par le fait qu'il n'y ait toujours pas de réel terme ou définition adéquate pour désigner les personnes qui quittent leur lieu de résidence en raison des changements climatiques.
En gros, il faudrait déjà que les termes soient définis.
Ouais, parce que même sur le terme migrant, on se prend la tête. Alors rajouter climatique, environnemental et tout, ça aidera vraiment pas, hein.
Ok, alors attends. Il dit quoi, sur les migrants? Ok, donc d'après Larousse, il dit qu'un migrant, c'est une personne qui effectue une migration.
Ça nous avance bien.
Mais bon, ça va. Je vais chercher migration. Donc c'est le déplacement volontaire d'individus ou de populations d'un pays dans un autre pays ou d'une région à une autre pour des raisons économiques, politiques ou culturelles.
Ouais, c'est un peu mieux. Mais c'est encore léger, ça fait pas beaucoup de raisons. Il n'y a pas l'aspect pollution ou environnement.
Pourtant, ils existent bien, ces migrants qui migrent pour des raisons climatiques ou environnementales.
Je pense qu'il y a aussi une combinaison des facteurs. Tu vois, par exemple, un fermier qui subit une sécheresse, il va migrer à cause du climat, mais aussi pour des raisons économiques, parce qu'il ne peut plus travailler.
Je fouillais un peu là en attendant et je suis tombée sur un article avec des définitions plus scientifiques, on va dire. Donc déjà, si on suit la logique des définitions précédentes, un migrant climatique ou encore un migrant environnemental, ça serait une personne qui immigre pour des raisons liées au climat ou à l'environnement. Bon, on est d'accord, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Et là, dans l'article de Chloé Vlassopoulos, elle y dit qu'il y a vraiment un enjeu définitionnel complexe. Et donc, selon elle, un migrant environnemental, un réfugié climatique ou encore ce qu'elle appelle un éco-migrant, ça qualifie une personne qui doit quitter son lieu de vie en raison d'une dégradation de l'environnement dans lequel il vit.
Ah oui, j'ai lu cet article aussi. Elle explique qu'il y a un débat qui a débuté dans les années 80 dans la communauté scientifique sur la façon d'appréhender les migrants climatiques. Donc il me semble que ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait d'un côté ce qu'elle appelle les maximalistes et de l'autre les minimalistes. En gros, les maximalistes, ils voient la question des migrations, des migrants climatiques à travers un prisme environnemental. Et donc ils vont voir un lien direct entre les problématiques environnementales et les mouvements de population. Du coup, en fait, ils voient ce problème comme un problème qui va être imminent, comme un peu comme les problématiques environnementales, quoi. Et de l'autre côté, il y a les minimalistes. Eux, ils vont voir l'aspect environnemental comme une des causes qui vient s'additionner à toutes les raisons qui poussent à l'immigration. Donc, un peu comme l'exemple du fermier qu'Anton a évoqué.
Oui, et Vlassopoulos, elle explique pourquoi cette question, elle est si peu traitée au sein de la politique publique. Et du coup, bah, comme tu viens de l'expliquer, Luana, le débat autour de la définition de ce problème entre les scientifiques, il permet pas aux décideurs de mettre en place une politique pour répondre à ce problème. Tout simplement parce qu'eux, ils ont besoin qu'il y ait une définition claire, il faut que tout soit carré. Et du coup, l'autrice, elle explique que pour qu'un problème soit traité, il faut qu'il soit vu comme gérable politiquement et administrativement. Donc en gros, il faut que le problème soit simplifié et ses causes et conséquences explicitées.
Ah ouais, donc si j'ai bien compris, c'est pas parce qu'on va montrer qu'un problème est imminent et potentiellement dangereux que des politiques publiques vont être mises en place.
En plus, dans notre cas, on parle de réchauffement climatique. Mais comment tu fais, toi, pour agir et empêcher le réchauffement climatique ? Si t'as la solution, on prend.
Non, mais c'est vrai que c'est difficile d'agir dessus parce que tout ça, bah, ça se fait sur long terme et c'est des coûts qui sont, selon eux, énormes pour adapter les manières de produire ou pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Oui, bon, en gros, il n'y a ni les politiques ni les entreprises qui veulent prendre le risque, juste parce que ça pourrait être mal perçu et hyper impopulaire. En vrai, on n'est même pas étonné. Tout le monde pense encore qu'à son nombril.
Mais oui, dire qu'on a investi beaucoup d'argent dans quelque chose qui n'est pas sûr et dont on ne voit pas forcément les conséquences positives.
Non mais oui, c'est ça. Et en plus, ce qu'il faut, c'est présenter le problème simplement et clairement. Sinon, les décideurs, après, ils paniquent vite et ils vont voir ça comme impossible à gérer. Parce que par exemple, comme on l'a vu, la question des migrants climatiques, ça soulève beaucoup de problèmes très divers. Ça touche plein de domaines, c'est super difficile de savoir quel acteur doit se charger de quoi dans l'administration. Parce que par exemple, je sais pas si on s'intéresse aux causes de départ des migrants. Ben, on peut penser à l'épuisement d'une ressource, on peut penser à une catastrophe naturelle ou je sais pas, un accident industriel. Et derrière, la gestion de ces problèmes, elle va toucher plusieurs secteurs de l'administration publique.
Mais en fait, il faudrait juste faire un choix entre approche minimaliste et approche maximaliste.
Eh ben justement, ce qu'explique Vlassopoulos, c'est que c'est plus à travers le prisme environnemental que la question elle est aujourd'hui traitée. Vu que, tu sais, dans les années 2000, la question de l'environnement, elle est devenue plus importante. Eh ben, on a commencé à voir la question des migrants climatiques comme un enjeu qui découle directement de la question environnementale. Donc le problème il a été simplifié, ce qui a permis son application dans l'administration publique plus simple. Donc en fait la solution elle va être trouvée dans la lutte contre les changements climatiques.
L'administration publique dans toute sa splendeur.
Rien qu'à voir comment les politiques européennes sont mises en place, quelle galère.
Comment ça ?
Par exemple, depuis 2013, on est déjà à la troisième version des accords de Dublin entre les pays membres de l'Union européenne et d'autres pays comme la Norvège, l'Islande ou encore la Suisse. Ces accords, ils encadrent la demande d'asile que dépose un migrant pour être reconnu comme réfugié. En gros, les autorités, elles enregistrent les infos de base et leurs empreintes. Du coup, pour savoir quel pays s'en occupe, il y a des critères à prendre en considération.
C'est quoi ces critères ? Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris.
Ils sont par ordre hiérarchique. D'abord la situation familiale, ensuite la possession d'un visa ou d'un permis de séjour récent dans un des États membres. Mais aussi si le demandeur est entré dans l'Union européenne de manière légale ou illégale. En fait, le but est simplement de savoir quel pays va s'occuper du traitement. En général, c'est le premier pays par lequel le migrant arrive qui s'en occupe.
Oui, ok, mais du coup, les migrants, ils arrivent toujours par les mêmes pays, genre Italie ou Grèce.
Oui, c'est l'idée. La répartition des demandes est très inégalitaire. Et les procédures de demande sont très longues. Rien qu'en France, le temps de traitement d'une demande d'asile mettait environ un an en 2019.
Ouais, en plus, c'est pas parce qu'un migrant arrive dans l'un de ces pays qu'il veut s'y installer. Je sais pas, moi, par exemple, un migrant qui se retrouve en Italie, il peut vouloir aller en France. Mais ils font bien compter plus d'un an avant une réponse de l'administration.
Oui, non, mais c'est comme ceux qui veulent aller en Angleterre, mais qui se retrouvent bloqués dans les camps à Calais. Et puis les conditions d'accueil, quoi. Entre les tentes lacérées, pas d'accès à l'eau potable, les assos qui se retrouvent bloqués par les arrêtés préfectoraux, qui empêchent la distribution de nourriture, tout ça parce que les dispositifs d'accueil sont saturés.
Oui, mais avec le climat actuel, on a bien trouvé de la place pour les Ukrainiens. Non pas que ça soit mal, c'est important d'accueillir les gens dans des conditions dignes.
Non mais en fait, si on fait la différence entre l'immigration qui vient d'Ukraine et les autres comme de Syrie ou encore d'Afghanistan, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. C'est juste que d'un côté, ils sont majoritairement blancs et apparemment plus proches de notre culture.
Surtout que même dans ces cas-là, on a encore fait du tri à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux par rapport aux étudiants noirs, arabes ou encore indiens qui se font refuser l'accès au train.
Bah ouais, t'inquiète, j'ai vu passer ces vidéos et il y a énormément de personnes trans qui se retrouvent bloquées.
Non mais toujours un plaisir la transphobie vraiment, comme si les Ukrainiens ils payaient déjà pas assez la guerre.
Ouais grave, et puis en plus par rapport à l'Ukraine, elle exporte pas mal de blé à travers le monde et ça pose pas mal de problèmes pour d'autres pays.
Rien qu'à voir en Tunisie, vu comment ils subissent ça, déjà qu'ils ont une crise économique aux fesses et le dérèglement climatique qui est bien présent. En plus, avec la sécheresse, les sols sont bien trop secs pour être cultivés. Donc le blé représente la moitié de leur importation.
C'est intéressant comme exemple la Tunisie, je savais vraiment pas. Mais c'est fou de voir comme une guerre, ça peut impacter des pays qui sont déjà impactés par une crise et qui en plus de ça sont impactés par le dérèglement climatique.
Peut-être que pour que ce soit plus clair, on pourrait chercher des exemples concrets de migrants climatiques.
Rien qu'en France, en fait, il y a déjà eu des déplacements à cause des catastrophes naturelles. Donc il y a des déplacements internes à un territoire.
Ah mais comme avec les inondations dans l'Aude, non? C'était en 2018, je crois, où il y avait eu plus de 1000 personnes évacuées dans une commune au nord de Carcassonne parce qu'il y avait eu un problème avec le barrage. En gros, je crois qu'il avait été endommagé par des inondations. Ça, en soi, ça peut être un exemple de migration interne, non?
Ouais, grave. Et puis aussi, il y a la crise de Dust Bowl qui s'est passée aux États-Unis dans les années 30. Donc alors, il me semble qu'il y avait une série de tempêtes qui s'étaient ajoutées à la sécheresse que la population, elle subissait déjà depuis plusieurs années. Et en plus, cette catastrophe écologique, elle était en partie due à l'activité humaine. Et ça a provoqué quoi? Le déplacement de 3 millions de personnes?
Ah ouais, quand même. Mais merci encore, madame, je connais tous les chiffres.
Mais du coup, même en France, on va être forcé à changer de région ou de département à cause du changement climatique.
Bah ouais, en vrai, bientôt, les migrants climatiques, ce sera nous aussi. Enfin, en tout cas, il y aura des Français qui seront impactés.
Puis surtout, sachant que d'après les scientifiques, ces phénomènes ils vont s'amplifier, devenir plus impressionnants, plus importants, mais aussi plus fréquents, et notamment dans les pays du Nord global, donc chez nous.
Bah ouais, c'est vrai. Dans le dernier rapport du GIEC, il est expliqué que la France, c'est l'un des pays européens qui va être le plus menacé par les inondations côtières, et que d'ici 2100, il y aura presque 2 millions de personnes qui seront menacées par ces inondations.
Ouais, donc en gros, faudra un tour de magie pour régler le problème.
Ouais, et puis en plus, c'est qui va éponger les apparts inondés? Eh ben, ça sera les femmes.
Ouais, et d'après le dernier volet du rapport du GIEC, il reste que 3 ans pour changer les choses.
Ouais, genre 3 ans pour faire construire des murs par des immigrés si l'extrême droite passe.
Ou pour apprendre aux hommes à éponger les apparts.
T'inquiète, les écoféministes vont nous sauver.
D'ailleurs, il y a une super émission sur l'écoféminisme, sur Vers de Terre dans Esprit Occitanie, je vous recommande grandement.
Chères auditrices et auditeurs de Vers de Terre, nous espérons que cet échange vous aura diverti. Nous avons discuté de la situation des migrants environnementaux, qui sont encore à l'heure actuelle beaucoup trop invisibilisés. Nous avons essayé de vous éclairer sur leur situation et qui ils sont. Pour aller plus loin, vous pouvez aller lire le livre « Mobilité humaine et environnement » de Christelle Cournil et Chloé Vassopoulos et les résumés des 3 volets du dernier rapport du GIEC.
C'est désormais la fin de l'émission « Vers de terre », l'émission des étudiantes du Master Politique environnementale et pratique sociale. Un grand merci aux participantes, ainsi qu'à Jacques Laverne pour nous avoir offert l'opportunité de faire cette émission, et aussi à Tiffaine Lemaine à la technique. Et enfin, un grand merci à nos professeurs Aude Surma et Geoffrey Carrère. On vous rappelle également que l'émission sera disponible sur le site Esprit Occitanie. Au revoir et bonne soirée à toutes et à tous.